qu'avec Anem. Bonjour à vous, chers auditeurs, toujours plus nombreux, et merci d'écouter ce 24e numéro de Qu'avec Anem. Alors j'avoue humblement qu'il a été particulièrement difficile de constituer l'équipe de cette édition, tant le programme, mes pauvres amis, en est rébarbatif, et pour preuve, Sylvain Faure, qui nous avait promis d'être là, est pour l'instant dans les embouteillages. Nous rendrons hommage à la merveilleuse mais peu photogénique Elisabeth Grümmer, qui nous quittait il y a tout juste 25 ans. Ensuite, nous nous pencherons sur Gourou, le nouvel opéra de Laurent Petit-Girard, avec le célèbre baryton hollandais Huub Klessens dans le rôle-titre. Oui. C'est ensuite vers Mayer que nous nous tournerons, le célèbre compositeur bavarois, géniteur inoubliable d'œuvres aussi pérennes que La Rosa Bianca et La Rosa Rossa, qu'il sacrifizio d'Iphigenia, de Raoul di Crequi, le célèbre Raoul di Crequi, et de La Rocha di Frauenstein, mais surtout de la Lodoïska dont il sera ici question. Et nous nous quitterons sur ce qu'il convient d'appeler le dernier disque de Philippe Jarouski, mais qui est en fait le Requiem de Forêt dirigé par Neeme Järvi, dont Virgin Classic sort en single le Pie Jesu chanté par le plus glamour, le plus imberbe, le plus délicat des contre-ténors français. J'ai donc dit Philippe Jarouski. Autour de moi aujourd'hui, nos piliers de comptoir habituels, Sylvain Faure qui n'est toujours pas là.
Bonjour.
Jean-Philippe va imiter la voix sénatoriale. En disant sénatoriale, je ne veux pas blesser Julien Marion, bien entendu. Julien Marion. Collaborateur de longue date de Forum Opéra, mais aussi chef de cabinet de la ministre Roselyne Bachelot, dont il m'a demandé de dire, fusil sur la tempe, que c'est la seule membre du gouvernement qui aime authentiquement l'opéra.
C'est parce que c'est la vérité.
C'est bientôt la seule femme aussi, d'ailleurs.
Oui, accessoirement, oui. Triste non, jour pour la parité.
La sympathique Nadine Morano qui...
J'ai dit que c'est la seule femme.
Et vous avez reconnu la voix de bronze de Jean-Philippe Tiellet, dont je vais une fois de plus citer tous les titres, car... on l'admire beaucoup, rédacteur de Forum
Opéra. Sans oublier les décorations.
Voilà, vice-président de Terra Nova, dont il est aussi directeur de la recherche et de la... J'adore ce mot, de la... Non ? Bon. Membre éminent du Parti Socialiste et donc tout suant de la victoire...
Je suis pas jour de quotidien.
Voilà. Tout suant de la récente victoire au présidentiel. Ah non, pardon, c'est au sénatorial. Et donc Sylvain Faure n'est pas là, c'est bien triste. On va commencer par le premier disque qui est ce récital d'Elisabeth Grümmer, qui est un récital à Schwetzingen, au programme Mozart, Schubert, Brahms, Schumann. Il est édité chez Andromeda et Julien Marion, qui a aujourd'hui décidé de nous présenter Elisabeth Grümmer, va nous parler de ce disque.
Ce disque, c'est un peu une réhabilitation, je le vois comme ça. Une artiste aussi immense qu'Elisabeth Grümmer est scandaleusement sous-documentée, comparée à une de ses exactes contemporaines qui a le même prénom qu'elle et qui, elle, pour le coup, a eu la chance de croiser dans sa vie un génial producteur de disques. Elisabeth Grümmer n'a pas eu cette chance. Elle a été mariée, mais son mari, malheureusement, est mort pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle ne s'est jamais d'ailleurs remariée après. Et elle a eu une carrière... très, très humble et très modeste. Modeste pas par ce qu'elle a fait, mais par la manière dont elle l'envisageait. Et j'allais dire, c'est presque un miracle compte tenu de la modestie de cette femme qui nous soit restée quand même, heureusement, quelques témoignages corrects, convenables de studios qui sont rentrés, heureusement, dans l'histoire du disque. Je pense évidemment à ces héroïnes blondes dont elle a été l'incarnation vraiment parfaite, que ce soit Agathe dans le Freischütz avec Furtwängler à Salzbourg. Ensuite, elle a été pendant 5 années de suite Eva dans Les Maîtres Chanteurs à Bayreuth. Elle a également été une très belle Elisabeth dans Tannhäuser. Enfin, à côté de cette activité opératique qui est heureusement à peu près correctement documentée, elle a été également une très grande chanteuse de leader, et ça, pour le coup, on n'en a que très très peu de témoignages. Il y a bien un récital salzbourgeois qui existe, et puis on vient de voir réapparaître ce récital de Schwetzingen, complété d'ailleurs de prises de radio sous forme de bonus. Donc il faut se jeter dessus. Il faut se jeter dessus parce qu'on a là véritablement un des timbres les plus touchants, les plus attachants de cette génération, qui pourtant n'en manque pas. On a une vraie science du chant, on a une vraie intelligence intelligence du mot, et puis on a une vraie bonté d'âme qui transparaît dans le chant. Et ça, vraiment, on est à des années-lumière de la sophistication extrême qu'on peut retrouver chez d'autres de ses contemporains, l'autre Elisabeth évidemment, mais enfin quelques autres aussi. Donc voilà, les amateurs de Lied doivent connaître cette chanteuse et doivent connaître ce récital qui est donc malheureusement un des rares témoignages disponibles de son art dans le domaine du Lied. Et si j'avais qu'un conseil, parce que le programme est très riche, on a du Schubert, on a du Brahms, on a du Schumann, on a du Wolf, qui sont d'ailleurs, c'est pas un hasard, les quatre piliers du Lied allemand. Si j'avais qu'un conseil à donner, ce serait d'aller écouter la berceuse de Schubert qui est dedans. Je crois que...
Mais justement, j'allais te demander quel numéro tu as choisi. Et
la berceuse de Schubert qui est un trésor.
Je note que pour Marilyn Horne, tu ne m'avais pas demandé et tu avais choisi la seule plage que je n'aurais pas choisie. Mais enfin bon, il y a du favoritisme dans l'air.
Ça tombe bien, on a le chef de cabinet, ministre de la Solidarité, qui pourra aller te plaindre à la personne ad hoc.
C'est plutôt le défenseur des droits. Là.
Voilà, on écoute donc ce Lied merveilleux de Schubert. Thank you. C'était donc le Wiegenlied de Schubert, Elisabeth Grümmer à Schwetzingen, un disque paru chez Andromeda, dont vous trouverez d'ailleurs la critique dithyrambique, comme il se doit, par notre ami Julien Marion sur forumopéra.com. Jean-Philippe, vu que Sylvain n'est toujours pas arrivé, je vais me tourner vers toi en espérant qu'il arrive entre-temps. Oui. Qu'as-tu pensé de ce disque ? Je t'ai vu faire des grimaces abjectes pendant que parlait Julien.
Non, pas du tout. C'était des grimaces d'abord d'accord sur une bonne partie de ce que Julien a dit, en particulier quant à la qualité du timbre de Elisabeth Grümmer, qui, je le signale, est une chanteuse française en réalité, puisqu'elle est née en France.
Elle est née en Basse-Lorraine.
Elle est née à l'époque en France. Et cette chanteuse française, qui parle remarquablement bien allemand, je le signale, est tout à fait remarquable par la qualité du timbre. C'est un timbre rare, parce que je trouve qu'il a un mélange de fragilité. On a pu dire qu'il était cristallin, ce timbre, et en même temps, c'est quand même un déferlement, non pas de décibels, mais d'énergie. C'est-à-dire que je trouve que écouter de Elisabeth Grümmer avec un bon casque, c'est comme avoir une bonne dose de vitamine C le matin en se levant. Alors, pardon pour les puristes.
Des laboratoires servis.
Ça risque de rendre sourd, donc il vaut mieux éviter. Mais en revanche, quitte à choquer les puristes, je trouve que son timbre et sa manière d'interpréter ce répertoire est bien plus séduisant que qu'avait Elisabeth Schwarzkopf d'interpréter ça, dont la voix est plus blanchie, oui, beaucoup moins riche, beaucoup moins intéressante.
Plus artificielle aussi.
Ouais. Alors par contre, je dois dire que une écoute post-prandiale m'a quand même...
Pardon ?
Post-prandiale, c'est-à-dire que j'avais bien mangé et que je me suis allongé sur mon canapé.
Il a écouté ça pendant sa sieste, quoi, en gros. Ah.
Et justement, elle ne m'a pas vraiment tiré de la sieste. Je dois dire qu'au bout d'un certain moment, il y a une certaine forme d'ennui qui, le programme est très long. Alors c'est composite, hein, puisque
propre à tout récital de leader.
Sauf quand c'est un programme cohérent ou qu'on est en live lors d'une soirée donnée. Bon, là, c'est pas tout à fait ça. Mais il en demeure pas moins, et d'ailleurs, je salue l'interview que Sylvain Faure a donnée à Julia Varadi dans le dernier numéro d'Opéra Magazine, où on apprend que...
Pour être exact, elle qui me l'a donné.
Ah, pardon.
Vous aurez remarqué entre-temps que Sylvain Faure nous a rejoint.
Et que... Voilà. Je crois que c'est une première, il y a 4 cravatés autour de la table ce soir. Et donc, Julia Varadi dit qu'Elisabeth Grümmer est une de ses maîtresses à penser. Mmh. Et bon, ça, le coup de chapeau vaut le coup d'être signalé.
Elle a enseigné à Paris d'ailleurs, hein, sur le tard, là, dans les années 80. Elle a été professeure au Conservatoire de Paris.
Voilà, Elisabeth Grümmer qui est décédée le 6 novembre.
À l'école d'art lyrique, non ?
Oui, à l'école d'art lyrique, tu as raison.
Excusez-moi. Elisabeth Grümmer qui est décédée le 6 novembre 1986. En Bavière.
Comme elle a vécu, c'est-à-dire discrètement.
Discrètement, tout à fait. Sylvain, toi qui as écrit un livre sur Elisabeth Grümmer aux presses universitaires de France.
Tout à fait, en cours de réédition. Que dire qui n'a déjà été dit, car je n'ai pas entendu ce qui a été déjà dit.
C'était très bien.
Ouais, j'imagine que c'était parfait. Je souscris totalement à ce qui a été dit. D'ailleurs, le choix lui-même d'un récital d'Elisabeth Grümmer montre que le niveau monte ici.
Tout à fait.
Et ça nous change, ça nous change du récital
de Marilyn Horn.
Non, moi ce que je trouve intéressant chez Grümmer, mais je pense que Jean-Philippe l'a dit, c'est son timbre assez particulier, qui est à la fois un timbre un peu brisé, un peu fêlé, et en même temps très coloré, enfin très riche. Et ça, c'est très frappant. Ensuite. Dans ce récital en particulier, il y a quand même un vrai problème de prise de son qui est digne d'une salle de bain.
Célèbre Tonhall de Schwetzingen. Hein,
oui, mais enfin.
Qui pose problème ici.
On a un peu problème. Mais de toute façon, c'est assez propre aussi à cette collection, à cette maison de disques qui, quand même, soigne pas trop ses remasterings. Et c'est vrai aussi, je suis d'accord avec Jean-Philippe, pourtant, Dieu sait si j'aime les leaders, mais je trouve le programme un tout petit peu incohérent. Et on passe d'une humeur à l'autre, d'un style à l'autre, et au disque c'est un peu difficile.
Julien, un petit mot peut-être pour contrer cette
oui, non, sur le programme, tout n'est pas de Schwetzingen. Il y a un complément là qui provient de prise radio Schwetzingen. Ça s'arrête avec Wolf. Alors après on nous remet une louche de Schumann et de Schubert. J'ai tendance à penser que rien de ce qu'a fait Grümmer n'est négligeable, mais c'est vrai que ce genre de disque n'est pas fait pour être écouté d'un seul tenant, d'une traite, bien évidemment. Il faut encore on a là une artiste chez qui beaucoup de choses proviennent naturellement. Il y a pas de calcul, il y a pas de tricherie dans son chant.
On pourrait aussi dire aux éditeurs Andromeda que contre rémunération modeste, ils pourraient chez Julien ou chez Sylvain obtenir un texte absolument remarquable qui rendrait ce disque inoubliable. Et là, la pochette est indigente.
Modeste, je connais les tarifications de Sylvain.
Et c'est quand même dommage de ne pas avoir ne serait-ce qu'un texte d'introduction. C'est quand même pas difficile au jour d'aujourd'hui.
C'est tout simplement la liste des leaders Et puis les sources ne sont pas indiquées de manière très précise.
C'est quand même du travail de cochon.
Voilà, on l'aura dit. Donc, le mot de la fin, Julien, si tu veux conclure.
Quand on aime le lead, il faut connaître cette chanteuse. Elle n'a pas eu la renommée qu'elle mérite, et ce versant de son art est à connaître à côté de ses prestations tout aussi géniales en opéra. Donc il faut connaître Elisabeth Grümmer, et il faut la réhabiliter, elle le mérite.
Voilà, merci Julien. Le but aussi de cette démarche chaque fois qu'avec NM depuis le dernier numéro, c'est de demander à nos rédacteurs de nous présenter un chanteur ou une chanteuse moins connue à travers un récital. Donc toi, tu nous proposais Elisabeth Grümmer. La dernière fois, Jean-Philippe nous avait proposé Marilyn Horn, qui effectivement, on l'avait souligné, est une inconnue notoire. Oui. Et Sylvain, lui, nous avait proposé Dietrich Fischer-Dietrich. avait totalement compris la démarche. On passe au disque suivant. Il s'agit de l'opéra contemporain Gourou de Laurent Petit-Gérard, paru chez Naxos. Alors, compositeur polymorphe, inclassable, infatigable, Laurent Petit-Gérard signe ici son second opéra, alors que le premier, Elephant Man, dessinait le portrait d'un homme broyé par une humanité implacable, mauvaise et cynique, une humanité de droite, n'est-ce pas, Jean-Philippe? Gourou, ce second opéra, est à l'inverse le portrait d'un homme face à une société qu'il dessine à son image et dont il fait plus ou moins ce qu'il veut. C'est, vous l'aurez compris, un sectateur fanatique entre le temple solaire et Georges Frêche, personnage houellebecquien ou sorti de l'île du docteur Moreau, Petit Gérard, qui, comme Bernard Herrmann et Nino Rota, a largement composé pour l'écran, s'initie un opéra militant, une sorte d'Alali, de Jacques Alali, à l'adresse des sectes. On écoute un extrait de Gourou.
Chez mes époux, vous les laissez.
Voilà, donc c'était un bref extrait de Gourou, le dernier opéra de Laurent Petit-Gérard, paru chez Naxos. Jean-Philippe, toi qui es généralement très amateur de la musique d'aujourd'hui, qui a écrit de nombreux ouvrages, notamment sur Salvatore Chiarino et sur Giorgia Pergis, un petit mot peut-être sur cette œuvre ?
Eh bien, j'avais préparé comme introduction le fait que chacun de temps en temps a besoin d'alibi, n'est-ce pas ? Et que là, c'était l'alibi. C'était l'alibi de Cave Canem sur le thème on est moderne et on n'a pas une tendance naturelle à ne programmer que du Rossini et du Donizetti. Et en fait, donc à ma première écoute, je dis bon voilà, on a l'alibi du semestre, il faut courber les chines et ça ira mieux au prochain. Et en fait, c'est pas complètement inintéressant pour plusieurs raisons. La première, c'est que je ne pensais jamais écouter un disque avec quelques mots d'introduction d'un ancien député UMP président de la Mivilu. À savoir Georges Fenech, qui donne son bénédicité ou son imprimature à cet ouvrage.
Il s'appelle vraiment Georges Fenech.
Il s'appelle Georges
Fenech. Comme le petit rongeur.
Ancien magistrat.
Il a été effectivement magistrat.
Il est président de la Mivilude, mission de lutte contre les sectes. Et comme c'est un ouvrage militant, eh bien l'administration a donné son imprimature. Et d'ailleurs, c'est une commande du ministère que cet opéra.
Ah oui.
Alors après, musicalement, qu'en est-il ? Musicalement, je vais vous raconter. J'écoutais non pas dans ma sieste post-prandiale, mais j'étais dans la ligne 7 du métro, avec mon casque suffisamment étanche pour ne pas être dérangé, quand tout à coup, je me dis, tiens, là, ça devient drôlement intéressant. Il y a des jeux sur les sonorités, et en fait, je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait un type avec un xylophone qui était dans le même wagon, et je croyais que c'était dans la partition, mais en fait, non, c'était un mélange. Alors, pour parler sérieusement, je dois quand même saluer, ça ne vous fait pas rigoler mon anecdote, je suis très déçu,
mais ça donne à penser.
C'est très...
c'est une anecdote
nous
qui
ne rions
sens,
pas, mais nous songeons.
Alors, je ne sais pas si vous êtes allé voir le site internet de Laurent Petit-Gérard.
Il y a un documentaire de...
Non, c'est pas ça qui m'a intéressé. Ce qui est tout à fait remarquable, c'est qu'il a mis plusieurs extraits avec la partition synchronisée avec la bande-son. C'est bien qu'on peut suivre la partition en même temps qu'on l'écoute. Alors on constate quoi ? On constate d'abord que c'est écrit de manière tout à fait raisonnable. On imagine que pour les chanteurs, c'est assez facile de mémoriser et de chanter, ce qui n'est pas le cas de pas mal d'œuvres contemporaines. On pense à Heinze ou Mantovani, c'est purement et simplement impossible à mémoriser, à chanter. Et l'avantage de Petit-Gérard, c'est que c'est pas du tout agressif. Ça s'écoute relativement bien. Bon, alors... Après, est-ce que je réécouterai cette œuvre ? Non. Est-ce que ça peut valoir le coup de le voir sur scène ?
Tu veux dire que ça n'est pas rentré à ton répertoire personnel ?
Non, en aucun cas.
Pour aussi le 21e siècle.
Et donc voilà, le mérite, c'est que c'est un opéra militant et que je trouve ça sympathique qu'un artiste s'engage pour une cause qui est quand même assez juste. Peu importe, il est contre les gourous.
Il y a des sectes à droite et des sectes à gauche, mon cher Sylvain.
Il est contre les gourous et moi je suis d'accord pour être contre les gourous. À partir de là, musicalement, ça se tient, donc ça emmerde un peu tout le monde, et Naxos va en vendre 50, dont 60 en hommage d'auteur.
C'est donc le Cobusissime de ce mois.
Oui.
Alors, qu'est-ce que le Cobusissime ? Je ne sais pas trop, on va demander à notre ingénieur du son de nous le dire.
Non, mais je ne suis pas habilité à parler, moi je suis technicien.
Voilà.
Cobus vit sous la terreur de son leader massif.
Ce sont donc des gens qui ne connaissent rien à la technique qui choisissent le Cobusissime.
Il y a quelques mètres d'ici, un gourou.
Voilà une belle mentalité de gauche. Je suis technicien.
Okay. Je ne suis pas habilité à parler, je suis technicien. Ivry Ezel.
On va dire que.
On va bientôt avoir affaire à Georges Fenech.
On va dire que le Cobusissime, c'est le choix, le coup de projecteur du site Cobuz vers une œuvre, un disque pour des raisons éminemment artistique. Et donc, Gourou donc, a été marketé et vraiment vendu comme quelque chose d'extraordinaire par Cobuz. Et rencontre, contrairement à ce que tu dis cyniquement et sans t'appuyer sur aucun chiffre objectif, un succès commercial éblouissant pour une œuvre contemporaine.
Eh bien, je m'en félicite.
Tu t'en félicites. Julien Marion.
Parce que Jean-François Copé, c'est le choix de Jean-François Copé aussi.
Ça doit te parler dans ton cadre professionnel, ce sujet particulier.
Vous des gourous, on en trouve partout, et pas qu'en politique, malheureusement. Non, j'allais un peu, moi aussi, avec des semelles de plomb, là, vers ce gourou. D'abord parce que c'est un enregistrement récent, d'une œuvre récente, d'un compositeur vivant. Donc ça, déjà, pour moi, c'est suspect. Tout ce qui n'a pas au moins 60 ans... tout ce qui n'est pas mort depuis 60 ans, pour moi, est un peu bizarre. Mais enfin, bon, j'ai été écouté. Et là aussi, enfin, je suis assez d'accord avec Jean-Philippe, dont je partage la réaction. Ça s'écoute sans déplaisir, je dois dire. Il n'y a rien qui fasse fuir l'auditeur honnête. Je n'irai pas le réécouter la semaine prochaine non plus. Alors, c'est toujours amusant dans ce genre d'œuvre de regarder un peu quelles sont les influences. Bon, là, il y en a plusieurs. Poulenc, les dialogues des Carmélites en particulier, n'est jamais très loin. J'ai trouvé qu'il y avait un travail intéressant sur le chœur. Moi, c'est ça qui m'a plu que les parties solistes. Parties solistes, Michel Legrand est jamais loin. Je trouve qu'on a des fois l'impression d'entendre une comédie musicale de Michel Legrand. Il y a quand même quelques facilités dans les dialogues.
Petit Gérard qui a signé la BO de Maigret pendant des années.
Non, mais on sent précisément, c'est ce que je voulais dire, on sent le compositeur de musique de film. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a des climats. Il y a des climats qui sont. Alors, il y a des passages qui sont plus réussis que d'autres, bien sûr. Mais il y a quelques climats qui sont intéressants. Moi, j'ai bien aimé en particulier la scène d'Iris à l'acte 3 quand elle pleure la mort de son enfant. Je trouve que c'est une scène qui m'a touché. Bah, à côté de ça, il y a effectivement des passages un peu plus faciles, voire un peu triviaux. Tout n'est pas balayé d'un revers de manche. C'est une œuvre qui, pour une production contemporaine, je pense, est d'un accès relativement aisé. Et puis, alors, pour rebondir sur une remarque de Jean-Philippe, moi, le fait que ce soit une commande du ministère de la Culture et que cette œuvre ait reçu la bénédiction de la Miviludes, ça me plaît plutôt. Je trouve que c'est bien quand l'opéra, je trouve ça bien que l'opéra parle de sujets contemporains, de sujets qui peuvent nous toucher. Et la question du sectarisme, malheureusement, est une actualité, hélas, très permanente.
Je crois que Laurent Petitgérard travaille sur un opéra qui s'intitulera Mort au PSG. Contre l'hooliganisme et qui sera approuvé par le ministère des Sports.
Tu es bien mauvais ce que j'aime dans cette
émission. Par David Douillet, c'est très bien, mais moi je lui recommanderais de
le. Ce que j'aime dans cette émission, qui est l'émission de l'expertise, de la connaissance, c'est votre affection profonde et militante pour la musique d'aujourd'hui.
Militante est le terme, oui.
Je trouve ça vraiment remarquable. C'est la curiosité, la recherche.
On l'a écouté.
Oui, vous l'avez écouté. Vous l'avez
gratuitement.
Même censément écouté.
Gratuitement.
Ne révèle pas tes tarifs à l'antenne. Non, alors, Sylvain m'envoyait un SMS ce matin à propos de Gourou, en me disant « Je ne l'ai pas encore écouté, mais je l'écouterai pendant mon heure de table. »
Voilà. Décidément, entre Jean-Philippe qui écoute Elisabeth Grümmer pendant sa sieste et Sylvain qui écoute Gourou pendant son déjeuner.
Deux disques de plus d'une heure chacun pendant ton heure de table, ça donne quoi, Sylvain ?
Bon, c'est un opéra que je n'ai pas écouté en entier, donc mon avis n'est pas autorisé. C'est simplement un sentiment à première approche. Moi, mon sentiment est très simple, c'est que je suis totalement incapable de juger une œuvre pareille. C'est-à-dire que, en réalité, c'est un langage musical qui me paraît pas complètement nouveau, déjà un peu entendu. Et Laurent Petitgérard est un formidable pasticheur. C'est-à-dire que il est capable effectivement de passer de Maigret à Lassner, d'un film historique à un film policier, etc. Et il a indéniablement une capacité, une qualité, une force rhétorique, enfin une stylistique qui est formidable. Et du coup, on se dit c'est un peu entendu. Donc est-ce que c'est sincère, c'est pas sincère, est-ce que c'est vraiment sa veine ou est-ce que c'est juste un truc qu'il fait pour... Bon, donc très difficile
est-ce
de
que
juger
c'est pas,
ça.
C'est pas ce qui a toujours fait la musique à toute époque, c'est de s'inspirer et se nourrir du passé pour faire le moderne.
Oui, peut-être, mais c'est difficile de le juger quand on est dedans, je veux dire. Enfin, on ne sait pas aujourd'hui ce que c'est que le moderne réellement.
Donc, tu te rappelles Marius et Fanny qu'on avait plutôt apprécié dans le genre léger.
Voilà.
On est un cran, j'allais dire au-dessus, non, on est un cran à côté.
Je pense que Girard prétend révolutionner l'écriture
de Vladimir Kosma.
On avait
vraiment aimé Marius et Fanny.
On n'avait pas détesté.
Mais c'était aimable. C'était
vous aviez aimé Marius et Fanny ?
C'était très agréable à écouter et à voir sur scène.
Marius et Fanny qui était édité chez Sisyphe, label d'Abeille Musique, notre partenaire. Voilà pourquoi.
Donc voilà, je trouve qu'on a du mal, on a du mal à se faire une idée musicale. Tu parles de sa voix, c'est très difficile à dire. C'est vrai qu'il échappe complètement à la mode atonale, etc., et aux trucs les plus immondes qu'on puisse entendre. Donc ça s'écoute très bien. Maintenant, pour moi, il y a vraiment un problème. Alors encore une fois, c'est pas forcément très autorisé, mais c'est quand même le livret que je trouve quand même une espèce de ressucé modernisé sur un thème archi d'actualité des mélos du 19e. Enfin, je trouve que le côté le fils, la fille, le machin, le truc, c'est pas théâtralement très bien trouvé. Ouais. Je trouve le texte...
Mais c'est adapté de Détective, je crois. Il a pris les quatre premières pages du numéro
de... Le texte,
de...
pour ce que j'en ai entendu, me paraît quand même assez peu élaboré.
Il y a des facilités.
Voilà. Et donc, au final, la question c'est, est-ce que c'est bien? Moi, j'ai trouvé ça bien. Je l'écouterai en entier, je le promets, parce que je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est formidable qu'il y ait des opéras aujourd'hui. Et je dirais, pour conclure, que si il n'y avait pas ce... Alors évidemment, s'il n'y avait pas ce genre d'œuvre, finalement, le problème, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas plus? C'est-à-dire que ça n'a pas l'air non plus complètement inaccessible. Il y a plein de compositeurs qui pourraient se jeter dans le... Simplement, on a vraiment un problème de commande. C'est-à-dire qu'on voit très bien que, justement, là, c'est le ministère. Une autre fois, ce sera l'opéra. Mais que l'entonnoir, pour un compositeur qui veut composer un opéra, l'entonnoir est horriblement restreint. Et la réalité, c'est que si on n'arrive pas à juger ce genre d'opéra, c'est parce qu'on a très peu de points de comparaison.
Exactement.
Et que, en fait, entre ça, Mantovani, Fénelon, moi, je préfère plutôt ça. Mais globalement, je trouve que le panel, tu dis, ça a toujours été le cas, etc. Mais comment un compositeur peut-il se détacher et inventer un langage original dans une époque où il y a si peu, au fond, de création contemporaine?
C'est très juste, mais c'est aussi qui a les doigts sur le bouton, c'est-à-dire qui a la capacité de passer les commandes, de décider qui accède aux subsides ou pas.
Bah, chaque maison d'opéra avec son directeur artistique
Oui, mais alors, après, qui a les moyens de passer commandes?
Bah, chaque maison d'opéra avec son directeur artistique.
Mais avec quel moyen?
Bah avec les moyens d'une production,
comme
n'importe quel opéra grossier.
Pourquoi
grossier.
Aux États-Unis, où la commande publique est par définition quasi inexistante, on a a priori une création
actuellement
beaucoup,
à San Francisco,
plus vivante.
Actuellement à San Francisco, il donne Heart of a Soldier avec Thomas Hampson. Oui. Il y a un cast quand même pas mal, Zambello met en scène. Là, c'est quand même l'orchestre de Budapest avec des chanteurs quand même pas formidables.
Enfin, c'est pas gentil du tout pour Huub Kleissens.
Non, mais d'accord. Mais
il prononce très bien le français.
Oui, tout à fait. Pour un flamand.
Je veux dire par là
pour un hollandais.
Il y a un vrai problème de moyens. C'est-à-dire que on est obligé.
Il y a un truc. Alors, il y a un truc.
Non, mais c'est pas mal. Mais je veux dire, manifestement, on est quand même très tenu.
Il y a un truc qui m'a un peu choqué, c'est le personnage que je trouve, c'est quasiment une incohérence. On nous explique, Petit Gérard nous explique qu'il a voulu que le personnage de Marie soit un rôle parlé, parce que c'est la seule qui justement résiste et échappe à cette folie suicidaire de la secte. Alors, sauf que quand on écoute la Marie parler au milieu des autres qui chantent, c'est pour le coup, c'est elle qui a l'air complètement d'une allumée. Enfin, c'est sidérant. Il l'a fait parler, mais en même temps, il lui a écrit son rôle parlé. C'est de la prosodie, mais du coup, ça confère à ses interventions un côté complètement halluciné.
Dans l'histoire de la musique, les récitants, ça n'a jamais très bien marché. C'est quelque chose peu
naturel.
Merci, chers amis, pour ces belles généralités impérissables.
Mais ce sont des
généralités. La musique d'aujourd'hui nourrit, on le sent, dans une culture profonde et un amour sincère de la musique.
On a écouté au moins 6 dans les 10 dernières années. C'est pas mal.
Oui, je me souviens, je vous avais envoyé un opéra un jour avec des beaux coffrets à l'époque.
Bien sûr, c'était Benoît.
Voilà, vous l'aviez perdu.
Non, pas du tout. Je l'ai revendu sur Amazon.
Voilà, c'est ça.
Comme il était dédicacé.
Il faut bien dire que la musique contemporaine aujourd'hui, c'est aussi Benabar.
Musique contemporaine
Zazie,
aujourd'hui.
Et Tom Jones.
Vive Tom Jones.
It's not unusual. Alors, on passe à l'opéra suivant qui, pour le coup, n'est pas de la musique contemporaine. C'est la Lodoïska de Johann Simon Mayer. Johann Simon di Giovanni Mayer. Et qui fait partie de ces compositeurs qui furent essentiels de leur vivant, mais dont la postérité n'a pas encore mesuré toute l'ampleur. Heureux géniteur, je l'ai dit, d'une œuvre foisonnante, compositeur en résidence à la Scala pendant de longues années, personnage incontournable du livre La vie de Rossini de Stendhal, où on le retrouve de toutes les 14 pages, systématiquement associé à Ferdinando Paer, autre grand oublié de l'histoire, compositeur et cordonnier de la cour. Mayer, né en Bavière, près d'Altmannstein, où Sylvain Faure fait du trekking chaque été avec ses filles adolescentes qui ont des tresses blondes et des culottes de peau. Il compose la bagatelle de 63 opéras, même si Julien Marion, qui me fait des signes frénétiques, me signale qu'en fait, il en a composé 70. Tous de grande qualité, hein, vous pouvez tâter, c'est de la qualité, avec des cantilènes, des cabalettes furibards, des contrutes, plein de contrutes, tout plein de contrutes. C'est le célèbre label bavarois Classics qui nous en propose une version de référence toute pimpante avec la très gracieuse soprano française Anna Maria Panzarella dans le rôle-titre et le ténébreux ténor britannique Jeremy Ovenden qui fait ici le méchant, un méchant ténor, ça nous rappellerait presque Mathilde Di Chabran, n'est-ce pas, Jean-Philippe qui tout d'un coup se réveille. On écoute le grand air et la cabalette de la Le De Hisc. Voilà, c'était la formidable Anna Maria Panzarella dans l'Allo d'Oïska. Alors, j'imagine que vous avez tous tiré des têtes terribles quand vous avez reçu ce disque, mais qu'en fait, vous étiez ravis d'avoir découvert cette œuvre dans une version aussi qualitative, en fait. Jean-Philippe.
Oui, absolument. C'était un vrai plaisir. Je crois que il y a eu des extraits qui ont été enregistrés, mais sauf erreur, c'est une des premières, le premier enregistrement de cette œuvre en intégrale. Ce qui est extrêmement frappant, donc pour ce compositeur qui est à la charnière entre le 18e et le 19e, c'est que dans la musique, on voit aussi qu'il a joué ce rôle charnière, c'est-à-dire que on devine extrêmement fréquemment ce qui va arriver, c'est-à-dire le bel canto, tu l'as dit, notamment avec la structure de certains numéros, on est dans l'air à numéro à plein, mais il y a déjà une veine mélodique extrêmement intéressante, mais il y a de la virtuosité qui ressemble beaucoup plus à la virtuosité du bel canto que la virtuosité de ce qui a précédé. Et un nombre de citations de Mozart absolument invraisemblable. J'ai jamais entendu un opéra en citer un aussi impunément, on va dire, parce que c'est très bien fait, mais il y a des mesures entières qui viennent directement de Don Juan, qui a été composé, sauf erreur, 9 ans auparavant. Alors voilà, on écoute ça avec un grand plaisir parce qu'on devine ce qui va suivre. Stendhal le cite, tu l'as dit, mais sans Maher, on peut se demander. Alors, je suis pas sûr que Rossini se soit vraiment appuyé sur Maher. C'est pas lui, Rossini, il a bâti ce qu'il est devenu à partir
Maher, Paer, Cimarosa, Paisiello, c'est un peu les chaînons manquants entre Mozart et.
Oui, mais est-ce que Rossini connaissait son Maher aussi bien qu'il connaissait les autres et Cimarosa en particulier? J'en suis pas sûr. En tout cas, on est à un moment charnière de l'histoire.
Étant musicologue de métier et de formation, je peux te confirmer que Rossini connaissait évidemment tous ces compositeurs qui étaient ses contemporains.
Mais tous ces compositeurs, oui, il en connaissait certains par cœur.
Il les connaissait même personnellement.
Et dans son maître, c'est-à-dire les partitions, il n'avait pas travaillé dessus, par exemple.
Dans 24 heures avec Rossini de Sylvain Faure, paru aux presses universitaires de France en 1987, page 212, il y a donc Rossini qui va manger la zuppa froide chez Maher.
Alors, il y en a un, par contre, il y en a un qui devait sa carrière à Maher, c'est Donizetti, puisque Maher lui avait mis le pied à l'étrier. Ils sont d'ailleurs enterrés tous les deux à Bergame, ce qui leur fait une belle jambe à l'un comme à l'autre, on en conviendra. Mais vraiment, le rôle de cet homme dans la naissance du bel canto, à la fois sur un plan concret et puis sur un plan musical...
Où est enterré Paer ? Au Père Lachaise ?
Non. Au Père Lachaise.
Merci.
Et alors, j'en termine juste, puisque nous sommes en année préélectorale, on oublie un peu trop ça depuis quelques minutes à Terra Nova. Moi, je propose à Terra Nova, à Cavicanem.
Au secours.
Je coupe.
Nous sommes en célèbre
femme sous-marin de gauche se révèle.
Il aura quand même fallu attendre 30 minutes avant
que. Puisque nous oublions un peu ici à Cavicanem que nous sommes en année électorale, moi j'ai une proposition de recréer le théâtre des Italiens à Paris, où nous donnerions que du Paer. Du Maire, du Rossini, Donizetti, un peu Bellini, les Verdi primitifs, mais pas trop. Et voilà. Et là, on donnerait ça tous les soirs et ça serait vraiment formidable.
Ça, c'est sûr que ça fait voter.
Puis on ne croiserait pas Sylvain tous les soirs.
Sylvain, toi qui, donc, on l'a dit, hein, tu es un spécialiste de cette période. Tu as consacré de nombreux ouvrages à Paer.
À la lidéristique de Paer.
Tout à fait. Qu'as-tu pensé de cette œuvre ? Et surtout Jeremy Ovenden, qui est un ténor que tu aimes.
Que je déteste violemment.
Et qui est le sosie parfait, vous l'aurez remarqué, de Daniel Cohn-Bendit.
Je trouve ce ténor absolument atroce.
C'est vrai, il n'a pas
le timbre le plus gracieux de sa génération.
Je remarque, Jean-Philippe, que tu seras parvenu à parler de ce disque sans citer un seul des interprètes.
Non, mais je trouve qu'ils sont excellents, je ne les connaissais pas. J'en connais, à part Anne-Marie Panzarella, oui, qu'on a vu. Mais les autres, je ne les connaissais pas, donc je les ai trouvés excellents.
Je trouve que c'est une œuvre de jeunesse, en fait.
Il est donc écrite au crépuscule de sa vie.
Mais pas du tout, 1796.
Ouais, il est mort en 1840.
C'est une œuvre de jeunesse. Ouais. Autant j'ai trouvé que Simon Maher était un très bon secrétaire général de la CFDT, autant je trouve que. Que comme compositeur, c'est moi qu'on va. Quoi.
Hein? Edmond, sans
Edmond Maher. Mais d'ailleurs, la tombe d'Edmond Maher à Bergame est assez réussie. Elle est très belle. Elle est dans la cathédrale de Bergame, non loin de celle de Donizetti. Ils ont de magnifiques cénotaphes tous les deux. Néanmoins, celle de Donizetti est fleurie et celle de Simon Maher.
Et poussière.
Edmond Maher sert du riz noir à chien. Et donc, non,
Est-ce qu'il y a des guides au cimetière?
Est-ce que tu as écouté ce disque?
Mais ce n'est pas au cimetière, c'est dans la cathédrale.
Dans la cathédrale même.
Oui, tout à fait. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est le chaînon manquant, c'est très emmerdant à écouter.
Ah non, non, c'est franchement, c'est très chouette.
Mais surtout, on ne voit pas encore la maturité qui... Parce qu'au fond, il aura une maturité, parce que cet homme est mort très vieux.
Mais ça, c'est son succès.
Et en fait, ce que je trouve très frappant dans cette œuvre de 1796, c'est son énorme succès. Et en 1796, comme tu le dis très bien, on sort à peine de Mozart, etc. Il y a quand même une vraie rupture esthétique. Donc ça, c'est intéressant. Mais en même temps... Je veux dire, ce caractère transitoire de Lodoïska, qui est quand même moins chiante que la Lodoïska de Cherubini, j'aime bien dire ce qui est.
Ah oui.
Ce caractère transitoire fait que historiquement, moi, je n'arrive pas à y adhérer. Je n'arrive pas à m'arrêter sur cette œuvre. Je trouve que c'est documentaire, que c'est pas très très bien chanté, gentiment dirigé. Mais que voilà, enfin, j'ai pas spécialement accroché. C'est pas un style qui m'arrête beaucoup. Je trouve que c'est d'une expressivité très limitée. Et ce qui est très curieux, c'est que la formule esthétique change, mais ça n'est pas encore une formule esthétique qui conduit à l'expression.
Tu préfères le Schwanengesang,
mais qui n'est pas beaucoup plus tardif.
Non, en effet. Julien Marion.
Bah ouais, le problème, c'est que on est à cheval entre Mozart et Donizetti, mais ça n'est ni Mozart ni Donizetti. Et d'abord, alors moi je trouve, peut-être pour prendre le contre-pied de Jean-Philippe, que ça regarde plus vers l'arrière que vers l'avant en termes musicaux. Alors oui, les citations de Mozart, je suis d'accord, elles sont surabondantes. Tu as du Don Giovanni, tu as des noces, des noces qui sont quasiment...
Même le premier raccord d'ailleurs.
Recopiées tel quel. Mais précisément parce qu'on sait que juste à côté on a Mozart et Mahler n'est pas Mozart. Il n'a pas l'étincelle de génie, le petit accent qui situait différemment, la petite fioriture ou le petit changement de rythme qui fait que Mozart
est Mozart. Pas écouter ses œuvres dans la perspective de Mozart. On prend aucun plaisir.
Non, mais bien entendu. Mais je veux dire, c'est pas non plus Donizetti. On n'a pas l'espèce d'orgie vocale qu'on retrouve
on
dans
est
le.
Pas loin. Il y a des tunnels
chez Donizetti, des pans entiers de.
Ça dépend. Quel Donizetti déjà.
Il y a des tunnels dans la Lodoïska quand même.
Non, mais c'est sûr, bien sûr.
Alors, cela dit, c'est pas ça s'écoute sans déplaisir. C'est pas une œuvre inintéressante. C'est plutôt bien troussé. Comme enfin, c'est pas. Moi, je vais pas crier au chef-d'œuvre méconnu. Et puis c'est convenablement interprété, effectivement. Alors je sais pas, j'ai pas de jugement tranché sur Jeremy Ovenden. Je trouve qu'il est mérite ni excès d'honneur ni excès d'indignité. Anna Maria Panzarella, ça c'est peut-être mon côté chauvin, je trouve qu'elle est à la hauteur. Mmh. Et le maître, bah, tout ça sans la troupe, l'esprit de troupe dans le bon sens du terme. Il n'y a pas de défaut majeur dans la distribution, il n'y a pas non plus de...
Non, puis un orchestre qui se tient rudement
bien. Ah oui, tout à fait.
On se prend à rêver de cette œuvre interprétée par les spécialistes de la Rossini Renaissance.
Là, on est souvent très déçus. Hein.
Bah, ça dépend parce que bon, enfin, on n'a pas prononcé son nom la dernière fois, donc prononçons-le. Mais tu mets Rockwell Blake dans ce rôle-là, avec. Je ne sais pas si Mère avait écrit des choses sur la capacité et sur le droit des interprètes de varier, mais enfin, il n'y a pas de raison que ça ait été différent de ce qu'on faisait dans l'époque baroque. On se prend à rêver parce que la trame musicale, la ligne musicale, l'invention mélodique est intéressante. Des artistes capables de faire de la pyrotechnie, ça devient sanglant.
Mais une chose qui me surprend que vous n'avez pas dit du tout pour un grand succès de l'époque. C'est un énorme succès contemporain, c'est que c'est un intrigue et d'une pauvreté incroyable.
Ouais, mais on s'en fiche.
C'est Lodoïska.
On s'en fout complètement.
Quand même. Enfin bon, c'est pas.
On pourrait citer, multiplier les exemples.
Enfin, l'intrigue.
Enfin, ouais, tabac à leur époque, ouais. Basé sur des.
L'intrigue de la valise, c'est pas génial non plus.
Oui, et le trouvert.
Le livret du trouvert est nul, pas l'intrigue.
Ah oui, et la valise.
La valise. L'intrigue est nulle, mais c'est un exemple singulier.
C'était bon.
Non, mais c'est ce que disait Sylvain est très juste. Quand on entend, par exemple, Il matrimonio segreto de Cimarosa, qui est, si je ne m'abuse, le seul opéra de tous les temps à avoir été intégralement bissé le soir de sa première, tant le succès était grand, on a du mal à comprendre un tel enthousiasme, même si indéniablement, on voit dans tous ces compositeurs de cette époque un talent, un métier qui sont incontestables. Doit-on pour autant se priver du plaisir de les réentendre aujourd'hui?
Parce que nous, on le juge avec ce qui est arrivé depuis, évidemment, que par définition, le public de l'époque ne connaissait pas. On a beaucoup de mal, et c'est même un exercice impossible de se remettre dans les circonstances, dans l'état d'esprit de ce qui pouvait être le public de Venise en 1796, sachant qu'il y avait peut-être eu Mozart, mais il n'y avait pas eu tout ce qui est venu ensuite, effectivement. Donc c'est ça. La lucidité a posteriori est quelque chose de très difficile.
Mais moi, je crois surtout que c'est un problème d'expression. C'est-à-dire que nous sommes, par tradition et par ce qui s'est passé justement après, quand même, fondamentalement, on est sensible à l'expression. C'est-à-dire qu'est-ce qui est exprimé, qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui est montré, soit de la psyché des personnages, soit de rapports de force, soit etc. Il y a eu quand même depuis, effectivement, une évolution de la musique. Ce qui est frappant là-dedans, c'est que c'est moins expressif que Monteverdi. Je veux dire par là que les personnages existent moins, l'intrigue est moins bien ficelée, l'orchestre est moins saisissant. Enfin,
c'est comparé à des pommes et des poires.
Non, pas du tout.
C'est comme si tu lisais.
Ce que je suis en train de te dire, c'est que notre seule manière de percevoir transhistoriquement les œuvres musicales aujourd'hui, c'est quand même l'expression. C'est-à-dire que on va moins s'extasier sur le fait que la cabalette est bien faite. On n'a pas une approche musicologique linéaire.
Non, mais tu as tout à fait raison, Sylvain, mais ça repose quand même beaucoup sur les interprètes que tu racontes.
C'est-à-dire que sinon,
on jette la moitié de la production entre 1800 et 1840, tu le mets à la poubelle parce que tu vas trouver que les livrets ne sont pas assez expressifs, etc. Donc beaucoup repose sur les interprètes, sur la capacité, encore une fois, à exprimer quelque chose et pas à faire de la virtuosité gratuite ou rien du tout parce qu'on ne peut pas. Ça, c'est une autre possibilité. Et donc voilà, moi, je trouve que c'est Lawrence Day, la dernière fois, à propos du Guillaume Tell, appelé de ses voeux, et que nous saluons, appelé de ses voeux une espèce de
grande... J'ai moi-même mis en scène une espèce de grande période
avec Valérie Gergiev dans le rôle de il appelait de ses voeux une grande période consacrée au grand opéra à la française.
J'ai moi-même beaucoup
mais vous m'écoutez quand je parle et donc moi je dis il faut intégrer tout à fait dans cet espoir de renaissance des œuvres de ce genre, parce que bien interprété, bien chanté, ça peut devenir tout à fait intéressant.
Est-ce qu'on a le droit de dire que Simon Mayer est un peu le Laurent Petit-Girard de son époque?
C'est peut-être plutôt le Lawrence Dale de son époque. Alors justement, on l'a pas encore entendu aujourd'hui, Lawrence, qu'en as-tu pensé?
Oh, j'ai demandé à mes moutons, ils ont beaucoup aimé.
Ils se sont mis à chanter.
Ce sont des chèvres.
Je crois qu'il a des moutons aussi.
Ah, des chèvres.
Comme sa chevelure.
Et les croisés des deux aussi. Je crois qu'il a les croisés des deux.
Mais moi, ce qui m'a fait programmer cette rareté, c'est justement que je trouvais qu'il y avait une forme d'homogénéité, peut-être pas dans l'excellence, mais en tout cas dans le très bon de la part de l'équipe. On avait un orchestre très professionnel, un chef qui apparemment aimait et maîtrisait sa partition, et Panzarella formidable, Ovenden peut-être un tout petit peu dépassé par la véhémence de son rôle dans sa grande scène de fureur, mais qui par ailleurs a une base mozartienne qu'on entend très nettement, et peut-être la mezzo qui est un peu moins palpitante. On aurait bien entendu Yulia Lechneva ou Marilyn Horn.
Est-ce que je peux me permettre de dire juste une chose en conclusion, c'est que
Pourquoi, en conclusion, la
Mayer Renaissance, qui donc va concerner 70 opéras.
Mais Sylvain adore les petits chiens, ça m'émerve.
Nous réserve pour la prochaine fois l'amore et filiale.
J'ai déjà fait en ouverture tous les.
Il fallait arriver à l'heure,
t'es pas là.
Je les ai déjà fait.
Hein. Et donc nous allons au devant de joie immense.
Oui, de 70 jours.
Merdouille, Sylvain.
Voilà, donc c'était la Lodoïska de Mayer, compositeur bavarois, paru chez Ums Classics. Hums Classics avec Anna Maria Panzarella dans le rôle titre et Jeremy Ovenden dans le rôle du méchant ténor agressif. Alors mille excuses, au début je parlais de Neeme Järvi, et en fait ce n'est pas Neeme Järvi mais c'est Paavo Järvi dont il s'agit ici, et qui a été nommé à l'Orchestre de Paris il y a quelques années, et qui signe ici un magnifique Requiem de forêt qu'on blante ici de mille lacunes, vraiment énorme dans la discographie de cette œuvre. Virgin Classics a décidé de caster cette œuvre à son contre-ténor maison, Philippe Jarouski, le Pi et Jésus, devenant donc ainsi même un single qui va évidemment ne va pas attendre pour se classer premier dans les charts, n'est-ce pas? Et bien entendu, accessoirement, dans des passages vraiment anecdotiques, on retrouve Mathias Gurm, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Voilà, on écoute
enfin,
bien sûr.
Des passages qu'on croyait anecdotiques jusqu'à ce qu'on y entende Mathias Gurm.
Voilà,
on écoute, forcément. Le pied Jésus, surprise, par notre ami Philippe Jarouski. Voilà, c'était Le Pied Jésus de Gabriel Fauré par Philippe Jaroussky. Sylvain, toi qui longtemps nous a dit ton amour de Philippe Jaroussky, j'imagine que tu ne vas pas perdre une occasion pour dire du mal de lui.
Mais je l'aime énormément. D'ailleurs, la question c'est, est-ce qu'on peut acheter l'album, est-ce qu'on peut acheter le disque du Requiem de Fauré, mais en enlevant Le Pied Jésus?
Ah oui, sur Cobuzz, c'est possible.
Et ceux qui aiment achètent le single à côté. Parce que autant je trouve que la masse orchestrale est assez bien traitée, quoique sur un tempo parfois un peu olé olé, autant je trouve le chœur vraiment très beau, quoique parfois un peu pâle.
On ne comprend pas grand-chose quand même.
Autant je trouve que l'intervention de Jaroussky modifie génétiquement le Requiem. Je trouve que ça n'est pas une voix, en réalité, dans le répertoire baroque, on se dit c'est céleste, c'est angélique, mais ça n'est pas une voix angélique, c'est une voix essentiellement maigre et pincée, qui donne une impression de rossignol légèrement serré sur
avec
sa branche.
Gastrique.
Je trouve que ça, c'est simplement que la couleur de la voix, le timbre de la voix, le type d'interprétation que propose Jaroussky n'est juste pas conforme à la musique de Fauré. Ça n'a rien à voir avec le talent du chanteur, que j'aime beaucoup par ailleurs quand il chante Luis Mariano. Ah non, c'est pas lui. Mais
c'est Faust.
Mais je trouve que ça n'est pas ça. Mais ça s'entend tout de suite. Non, enfin, je ne sais pas. On se dit, mais avec cette introduction absolument magnifique du Pied Jésus et cette voix qui d'un coup se perche, se coince dans cette espèce de d'aigu nasia. Ça n'est pas ça. Enfin, je veux dire, c'est tout simplement pas
de
ça.
De fait, ça n'a jamais été fait de confier ce morceau-là.
Mais par exemple, tu prends quelqu'un comme David Daniels, justement, ça n'est pas le même timbre.
Ah oui,
là, il y a vraiment un timbre Jaroussky qui est quand même très nasal et très très serré.
Julien Marion.
Oui, je suis assez d'accord sur la sévérité. Le Jaroussky, on a deux univers totalement étrangers l'un à l'autre qui se retrouvent. Télescoper, c'est un contresens absolu. Je ne sais pas, c'est peut-être le résultat d'un pari fait après une soirée arrosée, mais Jaroussky dans le Requiem de Fauré, c'est un non-sens. Le reste n'est pas mauvais, et même parfois très bon. Mathias Guernot, il faut boire chacune de ses syllabes, c'est absolument prodigieux, vraiment. Enfin, à lui seul, il mériterait qu'on achète le disque. L'orchestre est très bien traité, je suis d'accord avec Sylvain. Quant au chœur, malheureusement, il est desservi par la prise de son. Hein. Il est vraiment renvoyé en arrière dans une optique sonore très globalisante. On ne distingue pas les voix, c'est très dommage. Bon voilà, donc il faut faire la part des choses. Je pense que la raison pour laquelle on va chercher à vendre ce disque, malheureusement, le disqualifie.
Jean-Philippe.
Oui, tout à fait d'accord, pour être très rapide. Dans cette œuvre, qui est quand même une œuvre assez originale, qui ne ressemble pas vraiment à autre chose, je trouve que le chef arrive à trouver de belles couleurs à l'orchestre. J'ai trouvé que le chœur, parce que sauf erreur, c'est un enregistrement live, hein, j'ai trouvé que le chœur mettait un moment à se mettre en place et que le début était un peu pataugeoire, notamment du côté des femmes. Mais bon, c'est peut-être, peut-être mon écoute. Mais bon, bref, c'est comme ça. Après, pour le reste, une fois qu'on a dit ça. Jaroussky, je suis complètement d'accord, c'est vraiment insupportable.
Personne n'a dit ça. Hein.
Contresens, timbre nasillard, moi je trouve ça insupportable.
Hétérogène.
Mais ça c'est très personnel, je comprends qu'il y en ait qui puissent l'adorer. Je trouve son timbre me dérange, je ne le supporte pas, donc c'est mon droit, hein, mon droit le plus fondamental de ne pas supporter le timbre de ce chanteur qui par ailleurs est un bon musicien, tout ce qu'on veut, mais je ne le supporte pas, donc
même dans
encore
Lully,
plus. Je n'aime pas le timbre de sa voix qui me dérange.
Je crois pas que Jaroussky ait jamais chanté du Lully, mon Sylvain.
Et Roucouler 12 oiseaux, c'est pas de Lully.
Reste du programme démontre à l'envi qu'un partenariat avec Kleenex pour les vendre fin d'année serait bienvenu. C'est-à-dire que si on vend ce disque en packaging avec Kleenex ou avec je ne sais quoi pour les fêtes de fin d'année, la ménagère de plus de 50 ans pourra acheter à Auchan dans le devant de la gondole.
Mon chéri,
parce que franchement, la pavane pour une enfant de défunte et l'élégie, bon voilà quoi.
La pavane pour une enfant de défunte, c'est de Ravel, mais bon.
Alors c'est la pavane de quoi? C'est la pavane.
Vous noterez la connaissance
tout court.
Connaissance aiguisée qu'a Jean-Philippe Tillet.
Il y a quand même le dernier titre du disque, le Super Flumina Babylonis. Je me suis dit, ça y est, on a retrouver un trésor de 500, Hosanna, Noël, pas du tout.
Et alors dans la discographie abondante à laquelle tu faisais allusion, vous choisiriez quoi?
Hervé.
Ouais, alors moi, plus récemment et plus hexagonalement, j'ai beaucoup aimé Laurence et Kilbé. Ah, ouais.
Alors là, pour Sandrine le coup, Pio et Stéphane Degout, c'est quand même pas mal.
Ouais, ah, je suis tout à fait d'accord.
Et puis alors là, pour le coup, t'as un vrai travail sur le cœur. Ouais. Laurence et Kilbé est une chef de cœur, ça s'entend, ça se sent. Et...
Sinon, tu as une version, c'est la version, j'ai pas vérifié, mais c'est la version Clutens.
Clutens avec de Los Angeles.
Il était, oui, il était belge, j'en dis.
Clutens.
Clutens. Mais puis tu as la version de Baron Boyle avec Ellie Ameling et Fischer Disco.
Ouais. Non, c'est Shirley Armstrong, sauf erreur.
Ah oui, mais c'est la même chose.
Puis il y a Cecilia Bartoli et
Winterfell avec Myung Myung Chung.
Avec Myung Myung Chung.
Ah, c'est Julini qui a enregistré ça.
Ah oui,
il
me semble.
Et Hendrix
Schmidt et Kathleen Battle.
Et Plasson, ah ouais. Plasson, Hendrix et
Et Van Damme.
José Van Damme.
José Van Alors, ce qui est amusant dans l'interprétation de Gurney, c'est qu'il rompt avec l'espèce d'interprétation assez éthérée en général de Van Damme, etc., Fischer Disco, pour une interprétation très rugueuse, très articulée, très appuyée. C'est pas inintéressant.
Ah non, non.
On termine ce qu'avait Canem par un tour de table des objets culturels que nous avons aimés et que nous n'avons pas aimés. On commence par Sylvain, qu'as-tu détesté ?
Qu'est-ce que j'ai détesté culturellement parlant ? Écoute, probablement le clash entre Alain Lombard et Roberto Alagna, pour une raison assez simple en fait, et au-delà des responsabilités individuelles, c'est que je pense que l'Opéra de Paris ne peut pas, comment dirais-je, ne peut pas se permettre ce genre de choses. Et je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de pilote dans l'avion. C'est-à-dire que deux artistes sont en dissension, qu'on le veuille ou non. Il y a un chef, quoi. Il y a un directeur de cet opéra qui doit pouvoir les réconcilier sans faire payer aux contribuables les dédits de l'un ou les frasques de l'autre. Je trouve que c'est incompréhensible qu'on en soit là et qu'il faut que cet opéra fonctionne d'une manière différente. Je rappelle qu'on a toutes les saisons maintenant ce genre de clash. Enfin, c'est presque inacceptable.
L'année dernière, il y avait Emmanuel Haïm et qui d'autre ?
On a eu Emmanuel Haïm, on a eu Nathalie Dessay qui avait menacé qui a quitté la production. On a eu Emmanuel Haïm qui s'était fait sortir dans la clémence de...
Tu l'as déjà dit, c'était Idoménée.
De Idoménée, oui, voilà. Voilà, enfin, ça ne cesse d'arriver. Qui tient cette baraque ?
Julien Marion.
Ce que j'ai aimé, ce que j'ai détesté, c'est produit à 3 jours d'intervalle, au même endroit.
Alors, on va commencer par ce que tu as détesté.
Le Tannhäuser de Bayreuth, une honte.
Oui.
Une honte absolue. J'ai rarement vu une telle unanimité contre une production. Donc, alors, au bout d'un moment, c'est sympa d'avoir raison contre tous, mais non. Non, non, je crois malheureusement que...
Alors, que s'est-il passé pour les gens qui n'ont pas eu la chance
Il s'est passé que la direction du festival a programmé, donc c'était en plus l'ouverture cette année, une nouvelle production de Tannhäuser, qui est une horreur, tant du point de vue de la mise en scène. C'est du mauvais reggae théâtre pubertaire mal digéré, c'est affreux. Et puis surtout, qu'il n'y avait pas derrière d'exécution musicale pour rattraper ça. Enfin, on est censé être quand même dans le lieu d'excellence de l'opéra wagnérien et on se retrouve au niveau d'un mauvais théâtre de province allemand. Et heureusement, 3 jours après, au même endroit, j'ai eu la chance de revoir cette production extraordinairement intelligente du Parsifal, mise en scène par Erheim, avec cette fois-ci une mise en scène qui nous dit beaucoup de choses sur l'œuvre, alors qui est une mise en scène entre guillemets moderne, c'est-à-dire qu'elle ne suit pas la lettre des intentions du compositeur, mais il nous apprend énormément de choses sur l'œuvre et sur sa perception. Il y a un double niveau de lecture qui est particulièrement intelligent, et puis avec une exécution musicale extraordinairement homogène et intéressante. Donc voilà, finalement, c'est assez rassurant de voir qu'on peut encore trouver des choses intéressantes sur Wagner à Bayreuth. Ça ne doit pas conduire au désespoir le plus profond.
Merci Julien. Jean-Philippe, à part les touches de ton BlackBerry que tu caresses langoureusement.
C'est pas un BlackBerry. Qu'est-ce que j'ai aimé ? J'ai aimé 3 choses. D'abord, j'ai aimé quelque chose que vous n'avez pas vu encore, qui est le film de Mai Wen qui s'appelle Police, qui est sorti mi-octobre en France, qui raconte le quotidien de la brigade de protection des mineurs.
On l'a tous vu.
Alors,
à Cannes.
Oui, mais moi, je n'étais pas à Cannes.
Alors, ouais, ça se voit.
Donc,
ça
je précise que Sylvain Faure, dont les avocats n'ont pas besoin de m'appeler, n'est pas dans ce film. Hein. Ça n'a rien à voir avec ça.
Ça se voit, il y a une faute d'entendre.
En revanche, il y a Joe Estar, il y a Karine Viard et Marina Foïs, que je trouve magnifique. Alors, ce n'est pas un film léger, mais c'est un film dont on sort assez remué. J'ai beaucoup aimé le dernier disque de Tracy Kent, parce qu'en principe, on ne parle pas d'opéra, n'est-ce pas, dans ces produits. Donc, c'est du bon jazz et de la bonne chanson.
Je ne savais pas.
Et j'aime beaucoup le dernier DVD Party Time Karaoke de Tom Jones. Et all tracks are produced in the style of the original artist. Et on peut chanter She's a Lady, Sex Bomb, etc. Et
ça, une démonstration.
J'ai vraiment adoré.
Là, moi, je dois dire, dans ce que j'ai aimé, ça fait longtemps que j'en parle hors antenne, mais je vais me livrer au public. J'aime beaucoup le cancan. Le cancan, qu'est-ce que c'est ? C'est un bar à karaoké avec beaucoup d'homosexuels qui aiment Britney Spears, donc ils portent encore, vous savez, les Buffalo, qui étaient ces chaussures à semelle compensée de 50 cm. Et j'y ai donc chanté L'Aigle Noir. Mmh. Et aidé de quelques verres de vodka glace.
Avec les variations.
Avec les variations et évidemment l'extrapolation aux contrutes à la fin. Et je dois dire que c'est une belle chanson. Et que voir une chanson mythique par le spectre de sa propre interprétation, c'est l'aimer encore plus. Et donc voilà, je veux dire, ce que j'ai aimé cette semaine, c'était...
J'ai aimé ton interprétation.
Mon interprétation de L'Aigle Noir.
C'est bien.
Oui.
Voilà.
Un téléchargement légal sur Spotify.
D'ailleurs, j'aurais dû dire ce que je n'aimais pas, mais en fait, on peut très bien changer et dire que c'est ce que je n'aimais pas. Voilà. Ah. Sylvain, qu'as-tu aimé ?
Ou coûte la somme théologique. À relire.
Jean-Philippe.
J'ai pas tellement aimé le Carmen de Jean Lacouture.
Mais je crois qu'on parlait pas de. Tu viens de. Tu viens
mais
de...
C'est, excuse-moi, c'est un livre. Et d'ailleurs, il parle beaucoup plus de Prosper Mérimée que de l'opéra. Donc c'est voilà. On sent que Lacouture commence à fatiguer un peu après avoir fait
la
Montaigne. Voilà, bon, c'est pas un très bon livre. Vous en aurez lu certainement la critique sur Forum Opéra avant même d'écouter ce podcast.
Bon, je conseille à tout le monde les Lévitiques traduits en copte par Catherine Trottmann.
Futur ministre de la Culture.
Futur et ancien ministre de la Culture.
Et j'aurais bien ne pas aimé le livre de Roselyne Bachelot sur Verdi. Mais comme il n'est jamais sorti, je ne peux pas dire que je ne l'ai pas aimé.
Mais par définition, mon cher Jean-Philippe, si tu prenais la peine d'écouter ou de lire jusqu'au bout les déclarations de ma bien-aimée ministre, tu saurais qu'elle a déclaré à plusieurs reprises qu'elle continuerait
et ben, à partir du 6 mai,
livres, le jour où elle ne serait plus ministre.
Vous remarquerez la vieille tactique socialiste. Francis, coupe le micro de Jean-Philippe. La vieille tactique socialiste, il ne laisse même pas répondre son interlocuteur.
C'est pas grave.
Julien
était
en train de formuler une réponse et lui, il le couvrait de sa voix de ténor virtuose.
Bariton. Non, je dis juste, si vous voulez lire Roselyne Bachelot qui écrit sur Verdi, eh bien, votez bien le 6 mai.
Julien, réponse sérieuse là par contre. Parce que c'est vrai que les ministres qui aiment l'opéra, à part Nadine Morano, qui est très portée sur les opéras de Mariachi.
Roselyne Bachelot, et j'espère d'ailleurs qu'elle aura un moment ou un autre l'occasion de venir expliquer elle-même, ce qu'elle fera évidemment beaucoup mieux et de manière beaucoup plus sincère que ce que je peux maladroitement faire. Elle aime sincèrement l'opéra, elle connaît l'opéra. C'est pas une connaissance, socialement induite. C'est pas du vernis. C'est un vrai amour de l'opéra, vibrant, sincère et puis très très pointu par ailleurs. Hein. Alors effectivement, elle a un beau projet qui est d'écrire un livre sur le rapport perfide dans l'opéra de Verdi. Je veux dire que depuis 2007, elle a malheureusement peu de loisirs pour poursuivre l'écriture de ce livre, mais elle le terminera, elle l'écrira quand elle en aura de nouveau le temps.
Alors je vais te venger car je vais apprendre à nos auditeurs que Jean-Philippe Thiellet a cette année, avec une troupe amateur, chanté le rôle de Germont dans La Traviata, dont il existe heureusement quelques extraits sur YouTube que tu es...
Tout à fait.
Qui était posté par un ami à toi.
Non,
et je vais les mettre, bien entendu, sur la page de Forum Opéra.
J'appelle mon avocat.
Il faut voir.
Maître Lombard.
Il faut voir Jean-Philippe Thiellet dans le grand duo avec la Traviata, interprétée, je crois, par Rosalie Duchenou. C'est pas. Ça vaut la peine. Alors Jean-Philippe Thiellet, un petit, comme on a encore une minute, qu'on a été bref cette fois comme Pépin, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur ta relation au rôle du père Germont
Et surtout sur ton art du chant.
Car tu as été coaché à cette occasion par Gabriel Baquet, qui sortait de son interview avec Sylvain Faure.
Oui, et puis grâce à Lawrence, on a eu Valérie Gergiev qui est venue nous donner quelques conseils. Alors, le problème, c'est qu'il ne s'était pas lavé depuis 3 jours, on a été obligé de l'éjecter. Hein, mais c'était fondamental pour comprendre le rapport père-fille, parce qu'en réalité, Violette, c'est un peu la fille de Germont. Et donc, j'ai écrit au cabinet de la ministre de la Santé pour avoir...
Elle n'est plus ministre de la Santé, Philippe, depuis novembre 2010. Soit à jour.
Ministre de la Solidarité.
Des solidarités et de la cohésion sociale.
Et pour la pauvre Violette, dont je
pense que Servier... Alors, elle a bien besoin des services d'un ministère de la Solidarité.
Je pense que Servier était dans le coup.
Et de la cohésion sociale.
Alors là, pour le coup, fais gaffe, parce que les avocats...
Alors, non, mais une question sérieuse maintenant, Jean-Philippe, qui mettra un terme à cette émission. Quand on est critique et donc par nature enclin à être très sévère avec les défaillances vocales des autres, est-ce qu'il n'est pas délicat de se donner publiquement un spectacle ?
Ben, il faut demander au public qui avait payé cher pour être là où tu n'avais pas été, n'est-ce
je
pas ?
Je n'avais pas été invité non plus, et je crois que c'était à dessein.
Tu n'avais pas payé ta place.
Il fallait payer l'entrée du parking, c'était ça le problème. C'était le troisième sous-sol.
Par Vinci
place. Place 322.
Au parking Chauchat.
Au parking Chauchat.
Non, il y a quand même une différence. Il y a une différence fondamentale entre la pratique amateur qui n'est pas assez développée en France. Les gens ne chantent pas assez. Et si les gens chantaient plus, eh bien ça irait mieux. Ma bonne dame.
Et il n'y a pas une, il n'y a pratique, pas une manière de gauche de chanter, pratique. Une manière de droite, il n'y en a qu'une.
La bonne. Voilà. Merci Camille, tu es formidable. Et la pratique de professionnels qui prennent les places de tas de gens jeunes et talentueux, dont je ne suis évidemment plus. Qui aurait vocation à chanter. Non, c'est complètement différent.
Merci.
Et par contre, j'ai du mal à comprendre comment on peut être critique sans avoir chanté un jour. Mais ça, c'est une question pour un prochain Café Canal.
Mais d'ailleurs, Julien Marion était chanteur. Et Sylvain Faure, je l'ai appris cette semaine, a chanté quand il était étudiant le rôle de Don Giovanni et avait en Leporello Laurent Burri, qui est un autre rédacteur de
C'est France. L'inverse.
Ah, pardon. Je t'aurais bien vu, on donne Giovanni avec ta tripa. Voilà, c'était le 24e numéro de KV Canem sous une chaleur de plomb. Cela excusera un peu le côté dissipé de cette émission. Avec aux manettes, comme d'habitude, le sémillant Francis Mallet qui aura refusé de nous livrer les secrets du Cobusissime sous prétexte qu'il est technicien. Voilà, une belle mentalité. Jean-Philippe Thiellet de Forum Opéra.
J'ai un message pour Francis, on sait où t'habites.
Jean-Philippe Thiellet de Forum Opéra. Opéra.com de Terra Nova, mais qui fut aussi par le passé nonce apostolique, et Julien Marion, rédacteur de la Forum Opéra et chef de cabinet de la ministre Roselyne Bachelot, Sylvain Faure, qui n'est que rédacteur à Forum Opéra, et ça se voit à sa cravate toute mitée. Merci à tous, au revoir.